Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et c'est la revue de presse écrite par Marie, élue par Victor. Si l'on devait résumer les articles de la presse du jour, on pourrait dire qu'ils nous incitent à aller au-delà des idées reçues.
Et oui, dans l'Obs, Pascal Richer nous prévient que non, le Trumpisme n'est pas restreint au ranch texan ni même à l'Amérique. L'éditorialiste, en effet, alerte sur l'existence d'un Trumpiste made in France. Il explique que la société française, fragilisée par les crises multiples, est de plus en plus perméable à la vision trumpienne du monde qui repose, je cite, sur l'aspiration à la liberté, la recherche d'un homme fort, le rejet du libre-échange, la xénophobie, la détestation des médias et des élites et la méfiance. La façon dont les Français s'informent se trumpise elle aussi, poursuit-il. La France est l'un des pays d'Europe les plus ouverts aux fake news et deuxième pays du monde en termes de fréquentation des sites QAnon. Pour remédier ça à ça, écoutez Transistor. Pour les politiques, deux choix donc. Adopter par démagogie la posture de Trump ou proposer un projet qui corresponde à nos valeurs tout en répondant aux besoins qu'a révélé cette trumpisation de la société. La protection des classes sociales abandonnées par le système mondialisé, des élites moins distantes, le retour d'une idée de nation et du made in France. Coucou Arnaud.
Et quelles autres idées reçues sont battues en brèche par la presse du jour?
Eh bien, alors que dans les pages des journaux, les rescapés du Bataclan expliquent comment ils arrivent à se recoudre à une vie après avoir survécu à l'horreur, Le Monde nous fait part d'une étude récente selon laquelle la société française est ressortie plus tolérante et moins raciste des attentats de 2015 et 2016. Les chercheurs ont établi un indice de tolérance à partir des questions mesurant l'état d'esprit d'un échantillon représentatif de la population à l'égard des minorités. Leur résultat, cet indice de tolérance a augmenté entre 1990 et 2019, sans doute en raison du renouvellement générationnel et d'un meilleur accès à l'éducation, et a aussi nettement augmenté après les attentats de 2015 et 2016.
Et alors, comment cela est-il expliqué?
Eh bien, en France, les politiques et médias ont traité les événements d'une manière qui a empêché la mise en place d'une dynamique autoritaire, en distinguant clairement djihadisme et islam, et en produisant un récit d'unité nationale. Les auteurs déplorent donc qu'aujourd'hui, la réponse soit avant tout sécuritaire, et l'unité nationale que l'on cherche à mettre en scène, plus intransigeante. Les discours qui remettent en cause les rayons soi-disant communautaires des supermarchés ou accusent les chercheurs d'islamo-gauchisme alimentent pour eux une rhétorique de division semblable à celle qu'on observait dans les États-Unis post-11 septembre.
Et tout à l'heure, tu parlais bien de trumpisation de l'information. Est-ce que le documentaire Hold Up, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, a quelque chose à voir avec ça?
Et oui, il est à la une de tous les journaux. Libé titre « Hold up, le virus du complot » et s'attache à démonter les fausses informations véhiculées par ce documentaire de 2h45 durant lesquelles des personnalités brandissent à bout de bras des captures d'écran falsifiées ou des chiffres sortis de leur chapeau pour affirmer que le Covid-19 est un complot de l'élite mondiale et des big pharma contre les pauvres. Monique Pinson-Charlot affirme même que nous sommes dans la troisième guerre mondiale, je cite « Il y a un holocauste qui va éliminer la partie la plus pauvre de l'humanité ». Pour nous expliquer que le confinement est inutile, les auteurs annoncent que la mortalité a explosé entre le 15 mars et le 15 avril, période où nous étions confinés, oubliant le fait que les décès interviennent en moyenne 3 semaines après la contamination, et qu'il est donc logique que le pic de mortalité de mort ait eu lieu 3 semaines après la date du confinement. On nous apprend aussi que les médias auraient été incités financièrement à signaler les cas de contact, montrant pour justifier leurs propos une capture d'écran d'un article de Libération qui montre justement que cette rumeur sur les primes aux médecins est fausse. Alors même si certaines des critiques émises sont recevables, le documentaire joue sur l'émotion plus que sur la raison, ne laisse aucune place à la contradiction, s'appuie souvent sur des données fausses ou manipulées par des intervenants au profil parfois très étonnant. Christian Perron affirme que la maladie de Lyme serait due à une prolifération cachée de tiques modifiées par un chercheur nazi. Sylvano Trotta, lui, pense que la lune est creuse, il n'y a pas qu'elle par ailleurs. Pour comprendre les rouages bien huilés de la diffusion de thèses complotistes, je vous conseille d'ailleurs d'écouter Mécanisme du complotisme, une série documentaire sur France Culture qui s'intéresse à la manière dont une théorie complotiste peut devenir un phénomène culturel.
Et en parlant de phénomène culturel d'ailleurs, t'aurais pas des conseils pour se déconfiner un peu l'esprit?
Alors Marie en a plein pour vous et il y en a notamment tout un tas dans le monde du jour. Atteindre la canopée depuis son canapé en se laissant immerger dans l'étoile du douanier Rousseau avec le musée d'Orsay. mettre les voiles en surfant sur la toile et en participant à la nuit des musées en ligne pour une visite à la bougie du palais du facteur cheval, ou une promenade guidée dans un jardin zen japonais offerte par le musée Guimet. Entendre les voix qui résonnent depuis notre smartphone en regardant les pièces mises en ligne gratuitement par la Comédie Française le samedi à 20h30. Sinon, l'Obs nous apprend que le président du Turkménistan s'est offert une statue en or de chien à la baille, sa race préférée, qu'il avait offert à Poutine pour son anniversaire. On ne sait pas toujours si un bulldog en or massif au milieu des bâtiments soviétiques délabrés peut être considéré comme de l'art moderne. Les moques gratuits du Centre Pompidou sur l'art contemporain seront sans doute de bons conseils. Et vous savez quoi ? Je pense que pour faire face aux assertions de hold-up et la trumpisation de l'information, il faut faire attention à ne pas devenir des pigeons.
Des pigeons, c'est-à-dire ?
Alors non, écoute ce que nous apprend Le Monde. New Kim, 2 ans, est enfermé dans un lieu tenu secret en attendant son déménagement sous la surveillance d'une société privée de sécurité.
Attends, tu nous parles de quoi là ? D'une affaire sordide de trafic de bébés japonais ?
Mais non, c'est une affaire de colombophilie. Alors non, la colombophilie n'est pas l'attrait pour le trafic de poudre blanche ou les exploits du navigateur génois. C'est l'art d'élever et de faire concourir les pigeons voyageurs. Un sport non officiel né en Belgique au 19e siècle, sur lequel on attend ma chronique, et sur l'organisation de la prestigieuse Million Dollar Pigeon Race. C'est apparemment passionnant. New Kim, c'est donc cette pigeonne voyageuse détentrice de nombreux records et mise aux enchères sur le site Pigeon Paradise, Pipa pour les intimes, qui se transforme en Biba quand on est enrhumé, mais au fond c'est pas si grave parce que dans les deux cas ça parle de pigeons. Les enchères ont atteint 1,3 million d'euros, mais ça va encore grimper. En 2018, un Taïwanais a payé son pigeon 2,78 millions d'euros. N'empêche, c'est plutôt rentable quand on sait que les victoires de son volatile dans les épreuves de 500 km ont permis au propriétaire de gagner 13 voitures. Faire courir les pigeons, ça rapporte donc gros et ce sont désormais les Chinois qui sont friands de colombophilie et prêts à investir dans des athlètes volants.
Donc c'est sur cette info un peu plus légère que tu vas finir la revue de presse de Marie.
Alors presque, parce que je voudrais vous dire dans quoi investir et non, je n'ai pas lu Challenge. Dans le vaccin Pfizer, peut-être, oui, mais... Cette famille de vaccins à acide nucléique n'a jamais été utilisée en santé humaine et l'étude ne permet pas d'avoir d'informations suffisantes sur les effets secondaires. Préférez donc pour l'instant le logiciel d'IA créé par des chercheurs du MIT et capable de distinguer une toux provoquée par le Covid d'une toux classique. Téléchargeable sur smartphone, l'appli pourrait être utilisée dans les entreprises, restaurants ou universités. Et pour investir votre temps dans une lecture utile, rien de mieux que de vous plonger dans l'ouvrage « Sigy, la mère » de Cynthia Fleury. Ni Christophe André, ni Aurélien Barraud. Elle adopte un regard lucide sur notre époque et parle du ressentisme, du courage de faire émerger quelque chose de nouveau dans cette période troublée et de déployer des chemins alternatifs riches d'enseignements.
Merci Victor pour avoir lu la revue de presse de Marie.
Jusqu'à 21h. Toute l'actualité mixée, égalisée, montée, enregistrée, captée, compressée, diffusée, mixée, égalisée, enregistrée, amplifiée.
Tu entends l'histoire.